Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous d'une marche de 10 km à une marche de 1600 km. Eh bien, c'est possible, ma femme d'aujourd'hui l'a fait. On y va pour les détails.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Amal Labar Alafi, bonjour.
Bonjour.
Merci énormément, merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Je remercie Amal.
Je suis moi qui vous remercie énormément d'être ma femme également d'aujourd'hui.
Oh, merci beaucoup. Dans ce cas-là, j'imagine qu'on va se poser des questions mutuellement. C'est comme ça que ça va aller aujourd'hui?
À la guerre comme à la guerre, on y va.
On y va, yalla, bismillah. Alors, Lala Amal, toi, tu es une passionnée de marche quotidienne. Tabarkallah, tu fais 10 km tous les jours.
Exact.
Alors, tous les jours? 10 km?
Eh bien, au fait, j'habite à l'est de Paris et j'ai un bois magnifique qui s'appelle le bois de Vincennes. Et c'est ma deuxième maison. Et donc, et j'ai un énorme chien. Et donc, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, eh bien, tous les deux, moi et mon compagnon, on y va. Et en fait, c'est ma manière de bien commencer la journée, de m'oxygéner, de bien mettre de l'ordre dans ma tête, etc. Et puis, j'ai un super compagnon. Et donc, on y va. C'est notre kiff tous les deux, tous les matins. Voilà.
OK. Alors, cette histoire a commencé comment? Cette histoire de marche quotidienne de 10 km? Parce que les médecins recommandent, allez, on va dire, 20 minutes, 30 minutes de marche quotidienne pour la santé. Toi, tabarkallah, c'est 10 km. 10 km, tu les fais en quoi? En 1h30? 1h45?
En fait, je suis une marcheuse. Vous savez, les gens qui marchent en se tortillant un tout petit peu, la marche athlétique.
Oui.
Et bien, voilà, c'est venu parce que je courais avant et puis j'ai eu des problèmes de dos. Je peux plus courir. Je me suis dit, qu'à cela ne tienne, marchons. Donc, j'ai pris un coach qui m'a appris à marcher. Donc, voilà, je marche. Avant, je marchais trois fois par semaine. Et puis, le Covid est passé par là et j'avais le temps de sortir tous les jours marcher. Donc, voilà. Et puis, le fait d'avoir mon chien, ça a encore accéléré le fait que je doive marcher tous les jours. Et donc, on a nos petits tours. On a différents tours de telle manière à ce qu'on puisse diversifier les plaisirs. Donc, voilà, c'est ça la genèse de la marche.
Alors, cette marche ne s'est pas arrêtée au bois de Vincennes. Scène.
Exact.
Du tout. Puisque, en fait, aujourd'hui, ce que tu fais, c'est que tu fais d'abord de longues marches pour des causes diverses, comme pour financer la chirurgie cardiaque d'un enfant, marcher pour la paix dans le monde. Et après, on va arriver aux autres grandes marches, comme celle de la Mongolie et comme celle de Jérusalem à Mecca, en passant par le Médina, Monawara. Ça, c'est merveilleux. Monawara. Alors, on va y aller étape par étape. Les marches... Les marches, on va dire, pour une cause, donc celle que tu fais pour les autres. Comment ça fonctionne? J'ai jamais compris, en fait, comment une personne peut faire un sport et par ce sport financer une action?
Eh bien, c'est très simple. Je pense que les gens, moi, ça a commencé par la crise de la quarantaine. Les gens, ils ont des crises de quarantaine, ils font des choses diverses et variées.
Ouais.
Et moi, je voulais faire un truc. Je voulais faire quelque chose et je me suis cherchée. C'était une lubie dans ma tête. Je voulais faire quelque chose pour une association. Et j'ai cherché des associations à droite, à gauche, etc. Et puis, la seule chose que je sache vraiment marcher et faire, c'est marcher. Enfin, j'adore marcher et c'est un boost pour moi. Et comment ça marche pour répondre à ta question? Eh bien, on fait des collectes en se disant, écoutez, moi, je vais aller marcher tant de kilomètres pour cette cause-là. Soit les gens, ils vous aident en finançant chaque kilomètre marché, ils donnent 1 €. Soit il y en a qui donnent parce que, voilà, c'est des dons défiscalisés, donc ça aide un tout petit peu. Mmh. Je m'adresse aussi aux sociétés, aux corporates, je ne m'adresse pas uniquement aux individus. Donc, et là, honnêtement, quand je fais des collectes comme ça, je tape à toutes les portes. Mmh. Il n'y a plus de tabou. Je vais même chez mon boucher, chez mon boulanger, chez mes amis, ma famille. Je tape chez toutes les sociétés que je connais. Et au fait, ça marche. Hein. Ça marche.
Mmh. Mmh. Donc, en fait, avant de marcher, il y a beaucoup de marketing, il y a beaucoup de relations publiques, il y a beaucoup de choses comme ça, il y a du lobby, il y a toutes ces choses-là.
Oh là là, oui, bien sûr, parce que c'est des grosses sommes. C'est-à-dire l'association avec laquelle je collabore, une chirurgie cardiaque coûte extrêmement cher. Mmh. Mais eux, comme ils le font pour une association, ils ont ratiboisé vraiment tous les coûts. Mais ça reste un coût quand même hyper important. C'est-à-dire, il faut collecter genre 12 000 euros. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Et donc, oui, c'est tout un travail avant. Pour aller taper à toutes les portes en se disant, enfin, on sauve la vie d'un gamin quand même. On s'achète pas un sac, on s'achète pas une montre, toutes ces futilités de la vie. Et je me dis, moi, c'est mon enfant à moi avait un problème, mais je taperai à toutes les portes. Et donc, c'est comme ça, il faut y aller, il faut avoir du culot, il faut parler aux gens, il faut collecter cette somme-là, et on sait où ça va, en fait. C'est des choses tangibles, c'est des enfants qui viennent. On les voit dans quel état ils viennent et dans quel état ils repartent. Et moi, franchement, ça, c'est gnome à faire.
Gnome à faire, je comprends parfaitement. Alors, Lala, Amal, est-ce que tu as un boulot, un job ?
Oh oui, j'ai un job hyper prenant. Je travaille dans la finance. Donc oui, j'ai un job et tout ça, je le fais à côté.
Donc, même la marche quotidienne de 10 km, toutes ces choses-là, en fait.
Oh, ben, la marche quotidienne, moi, je suis du matin. Donc, il suffit de se lever à 6h. À 7h30, on est à la maison.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Et le tour est joué.
C'est ça.
Exactement.
Donc, en fait, ta crise de la quarantaine, tu l'as eu dans le cœur.
Exact.
Agir pour les autres.
Exact. Exactement, et puis c'est quelque chose qui est tellement rewarding. Ça n'a pas de prix, en fait. C'est juste magnifique. Le premier petit garçon qui est venu pour ma première marche, il avait 2 ans, il s'appelait Acer. Et je vous assure, il ne pouvait pas respirer, le petit loulou. Enfin, je veux dire, c'est des opérations très lourdes à cœur ouvert. Les parents, ils mettent leurs enfants dans un avion, ils ne peuvent pas venir avec eux pour un tas de raisons. Et donc, il y a des gens, justement, pour aider cette association, il y a des gens qui font famille d'accueil. Donc, c'est-à-dire, c'est eux qui accueillent les gamins, qui l'emmènent, voilà, exactement, etc. Et il y a des gens comme moi qui vont collecter. Et donc, j'ai vu dans quel état Acer est venu et dans quel état il est revenu chez lui, mais ça n'a pas de prix.
Ouais,
ça n'a pas de prix, honnêtement.
Ça devient un enfant du cœur, en fait.
C'est exactement ça.
On se lie d'affection, de tendresse, on donne une partie de soi. Et...
Exactement.
Yek.
Exactement, c'est une partie de soi, de son temps, de tout ce que...
De ses émotions, de son énergie, de sa peur, en fait, parce qu'on a peur pour l'autre. Donc, je me dis, ça crée un lien quasi filial.
Exact. Alors, filial, c'est très compliqué parce qu'on passe par l'association, c'est-à-dire on n'a pas de lien direct avec l'enfant.
OK.
Mais je garde un œil sur lui à travers l'association. On peut financer ses études. On peut aller encore un peu plus loin.
Ouais,
hein.
Ouais.
Vous savez, ça ne s'arrête pas là. Donc voilà, c'est quelque chose, en tout cas, que moi, qui me rend heureuse. Voilà.
Alors, tout ça s'est passé dans le pays où tu habites. Toi, tu habites en France. Mais par contre, un jour, tu décides d'aller traverser la Mongolie.
Voilà.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?
Il se passe que je devais financer cette première chirurgie cardiaque pour cet enfant. Et j'ai choisi d'aller marcher en Mongolie. Donc, mon message de communication, c'est que moi, je vais traverser la Mongolie à pied pour ce gamin-là. Est-ce que vous pouvez m'aider à collecter cette somme-là pour financer sa chirurgie ? Donc, en fait, pour répondre à ta question initiale, comment on fait pour faire du sport et financer ce genre d'initiative, c'est exactement ça. C'est-à-dire, moi, je me dis, OK, très bien, je me prends en charge mon voyage, etc. Donc, ça, c'est totalement en dehors de ça, de l'équation. Et au fait, je demande aux gens de m'aider à collecter cet argent pour cet enfant-là. Mmh. Et au fait, vous savez, il y a des gens qui font des choses totalement dingues pour collecter cet argent. Donc, il y a beaucoup d'initiatives. Et moi, comme je sais que marcher, donc je fais des marches hyper longues pour pouvoir collecter cet argent-là et guérir un enfant. Et surtout, pour les parents également, je me dis, ça leur rend le sourire, ça leur rend...
Exactement. Alors, on ressent quoi quand on marche pour une cause versus marcher autant de kilomètres, mais que pour soi ?
Eh bien, moi, c'est ce que je me dis tout le temps. En tout cas, marcher 10 km tous les matins, bah, c'est rien du tout. C'est une petite marche, une heure, on revient, une heure, deux heures, ok, très bien. Mais quand on va faire de grosses marches comme ça, de 500 km, 1000 km, 1500 km, je pense que marcher juste comme ça pour rire, en tout cas, sur moi, ça ne fonctionne pas. Mmh. Il me faut un leitmotiv, il me faut une cause. Et en général, quand je fais des marches comme ça pour des enfants, j'ai besoin d'avoir collecté tout l'argent et j'ai besoin d'avoir, d'avoir rencontré l'enfant. Comme ça, il est dans ma tête, il est en face de moi et je sais pourquoi je marche. Et je me dis, si un jour, moi, je fais de mes enfants aussi, ou quelqu'un de ma famille ou n'importe qui, son gamin, il a un problème de cet acabit-là, eh bien, moi, je ferai le tour de la Terre 3 fois à pied, s'il le faut, pour pouvoir sauver mon fils ou mon neveu ou mon cousin ou le fils d'un voisin, etc. Et donc, en fait, il faut avoir, en tout cas, personnellement, je ne peux pas aller marcher 1000 km juste pour rire, parce que ça fait mal, parce que, voilà, on est fatigué, parce qu'on en a marre, etc. On se dit, bah, au bout d'un moment, ok, très bien, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ça? Mais en revanche, quand on a une cause, quand on voit l'enfant et qu'on voit pourquoi on le fait, alors là, c'est de l'énergie en revanche. Là, on ne s'arrête plus, au fait. Oui. On sait pourquoi on le fait.
Alors, exact. Toi, tu as 3 enfants, tabarakallah.
Exactement, j'ai trois enfants. Exact.
3 enfants. Et quand tu pars aussi longtemps et aussi loin pour un autre enfant, ils le vivent comment?
Eh bien, au fait, c'est toute une préparation, parce que déjà, ils vivent la préparation de la collecte. Ils rentrent tous les jours de l'école. Alors, maman, on a combien? Alors, maman...
Ils sont impliqués, en fait.
Ils sont impliqués. Et donc c'est toute la phase de préparation, de la préparation de la collecte, la préparation de la destination, où est-ce que maman va marcher, comment est-ce qu'elle va marcher, etc., etc. Donc, il y a toute cette phase-là. Et après... En fait, ils savent pourquoi je le fais. Et en général, je les emmène avec moi voir les petits loulous, les petits enfants. Et ils comprennent. Et quand je les emmenais tous les trois pour voir Youssouf, le deuxième petit garçon qui est venu du Niger, et il avait 6 ans. Et quand il est arrivé en France, il se pesait mais pas 20 kilos. Enfin, ils m'ont dit, mais maman, mais t'as sauvé la vie de ce garçon. Moi, je suis qu'un moyen, mais alhamdoulilah, oui, au fait, ils comprennent, c'est toute une démarche sur un peu quelques mois, on décide, on collecte de l'argent, on a l'argent, on identifie le gamin, il arrive en France, on va le voir, et maman va marcher, et revient.
Ouais, donc, et revient.
C'est une démarche, ouais. Exact, et revient.
Alors toi, tu es marocaine de France?
Yek.
Ok, donc là on a parlé vraiment de la petite famille, ton époux qui est derrière aussi, tes enfants, mais ta famille marocaine au sens large, elle voit comment justement, ça fait rire avant même que je ne finisse la question, elle voit comment justement tes escapades avec, voilà, c'est-à-dire comment elle te voit, toi femme, seule, partir, aide, on va aller à l'autre marche, mais par exemple aller traverser la Mongolie.
Qu'est-ce que je vais te dire? Moi, je m'aime mes parents.
Oui.
Parce que les pauvres, je leur ai laissé voir de toutes les couleurs. Au fait, il y a beaucoup d'inquiétudes. Je sors ça du chapeau. Bonjour, bah voilà, je vais aller marcher en Mongolie. Bonjour, je vais faire ci, ça, etc. Donc, ils s'inquiètent énormément. Et après, ils me suivent. Pas trop le choix, donc oui. ils me suivent bien évidemment tous les jours à travers tout ce que je fais, ils me suivent avec leur doua, avec Arda Dialhoum, donc oui effectivement ils ont une fille qui sort un peu du lot, mais ils comprennent que c'est important pour moi et donc et après j'ai des parents qui ont été hyper aventuriers, mes parents ils faisaient de l'alpinisme, ils étaient les premiers alpinistes marocains dans les Pyrénées, donc j'ai quand même...
Oui, oui, voilà. Donc, d'accord, ils comprennent, en fait. Mais est-ce qu'ils comprennent le côté solo?
Au fait, le côté solo, je leur explique et j'explique à tout mon entourage que d'abord, ces marches-là, ce n'est pas des marches. En tout cas, personnellement, c'est des marches où j'ai besoin d'être seule, où j'ai besoin de faire le point, de marcher avec moi-même, et de me gérer toute seule, de ne pas gérer les blessures des autres. Pas par égoïsme, mais au fait, c'est des marches tellement longues. qu'on a besoin de se gérer et d'être centré sur soi. Et puis, voilà, je suis une solitaire quand il s'agit de marcher. J'ai besoin de marcher seule. Voilà. Tout aussi simple que ça.
Alors, donc ça, c'était première grande marche en dehors de la France. C'était la Mongolie. Et ensuite, il y a eu le Quds, 1600 kilomètres. Quds Mecca en passant par le Médine.
Exact, exact. Alors, juste avant, en fait, j'avais fait le chemin de Compostelle. En fait, c'était pareil, 1500 kilomètres. Donc là, je suis partie du Puy-en-Velay pour arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Donc, pareil, une magnifique marche. Et c'est un pèlerinage, en fait, un pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, effectivement, je ne suis pas de confession catholique. Je suis bien évidemment de confession musulmane. Et c'est un chemin de lumière. C'est un chemin de lumière. Donc, au fait, c'est un chemin que j'ai vraiment apprécié. Et j'en garde un énorme souvenir. Un souvenir vraiment très, très agréable. Mmh.
Alors, justement, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ces 1600 kilomètres? C'était quoi le déclencheur?
Le chemin de Compostelle?
Non, le chemin, le Quds, le Mecca.
Oh là là, le déclencheur, il est très simple ou très compliqué, à savoir d'où on se positionne. En fait, mon mari m'avait invité pour nos 20 ans de mariage à Jérusalem. Mmh. Et en fait, on est parti. Je suis rentrée pour la première fois à l'esplanade des mosquées sous le dôme du rocher. Et là, j'ai ressenti une émotion, mais quelque chose de fantastique, quelque chose de que je n'ai jamais ressenti de ma vie. Et je me suis dit, mais comment ça marche si je ressens cela ici à Quds? Mais qu'est-ce que ça va être un Mecca et Médina? Et là, c'était un coup de foudre et je me suis dit, attends, mais il faut absolument que j'y aille. Et les gens normands, alors moi, j'ai pris mon téléphone et j'ai regardé. Les gens normands, ils ont regardé un billet d'avion. Moi, j'ai regardé combien ça me prendrait de temps de marcher de Quds à Mecca. Sur mon téléphone, il n'y avait même pas d'itinéraire. En fait, Google Maps ne vous propose pas d'itinéraire.
Oui, oui.
J'ai dû calculer toute seule. Et au fait, j'ai gardé cette information dans un coin de ma tête. Je l'ai gardée précieusement. Et là, en 2025, c'est ressorti en force. Au fait, je voulais aller marcher. Je savais que j'allais faire une grande marche. Et il n'y avait que ça en tête. C'est de marcher de Quds à Mecca à travers Médina et de marcher pour la paix de monde. Parce qu'en fait, j'en avais tellement marre, tellement ras-le-bol de tout ce qui se passait dans le monde. Je trouvais que les gens marchaient sur la tête. On marchait vraiment sur la tête dans tellement de pays. Et je me suis dit, tu sais quoi, j'ai envie d'aller marcher et d'Allah, de faire une prière dans les trois villes saintes et de faire ça pour la paix dans le monde. Voilà, donc c'était ça le moteur de cette marche-là. Ça venait de là.
Alors, tu l'as vécu comment cette marche? Ces émotions que tu as ressenties, cette...
Oh là là, c'est vraiment... Alors moi, je voyage énormément, je voyage beaucoup. Mais cette marche-là restera à jamais sur mon podium. Elle sera toujours dans le podium parce que ce n'est pas une marche anodine. En fait, on marche dans une terre sacrée déjà. On arrive à Quds, il y a toutes les planètes des mosquées, mais il ne faut pas oublier, il y a le Saint-Sépulcre, qui est le saint des saints de la chrétienté, il y a le mur des lamentations, il y a l'église de la dormition, il y a l'église de la nativité, pas très loin à Bethléem, il y a des maqamats de prophètes, vous allez à la cité des patriarches, à Hébron, Al-Khalil, vous avez le maqam de Sidna Ibrahim, de Sidna Ishaq, de la Sara, de Sidna Youssef, vous allez à Halhoul, pas très loin, vous avez le maqam de Sidna Younes, au fait, vous allez à Jéricho, vous avez le maqam de Sidna Moussa, c'est un truc de dingue, toute cette terre est une terre sacrée, et donc ne serait-ce que par cette sacralité, cette marche est exceptionnelle. J'en garde un souvenir inouï. Et puis, il y a
on sent cette différence, en fait, cette énergie différente.
Oh, moi, je la sens à 10 milliards pour cent. On sent qu'il y a quelque chose dans cette terre-là. Bien sûr, on sent. Et puis, évidemment, non seulement on sent cette énergie, mais on sent la souffrance des gens quand vous baladez, pas vraiment sur Quds, mais quand vous allez en Cisjordanie, Là, il y a une différente énergie parce qu'on sent que c'est une terre sacrée, mais on sent aussi la souffrance des gens. Et c'est ça qui est aussi terrible. Et comme j'ai la chance de parler en arabe, de discuter avec les gens, de se poser, de vraiment comprendre, de discuter avec les gens, mais ça vous fend le cœur. C'est une énergie tellement différente en fait, de tout ce qu'on connaît. En tout cas, moi particulièrement, ça me touche énormément.
Alors, ça t'a pris combien de temps, ces 1600 kilomètres ?
Ça m'a pris exactement 35 jours. Mon unité de mesure, c'est un marathon par jour, donc c'est 42 kilomètres. Il y avait des jours où j'ai pu faire un tout petit peu moins pour diverses raisons. Il y avait des jours où j'ai pu faire plus parce qu'on avait la forme, parce que j'étais bien dans mes baskets. Alors, il faut savoir que sur les 1600, j'ai dû marcher réellement à peu près 1300 parce qu'il y avait des endroits où il était impossible de marcher. Genre à l'approche des frontières entre la Jordanie et l'Arabie Saoudite, c'est interdit de marcher, c'est impossible. Les 30 kilomètres qui séparent le côte de la frontière jordanienne, bah là c'est hyper dangereux, littéralement. Enfin, il peut vous arriver quelque chose de très méchant, vous ne pouvez pas marcher. À l'approche de sites militaires, etc., entre Mecca et Medina, c'est très compliqué de marcher sur des tronçons de autoroute. Donc je pense que sur all in all, j'ai dû marcher 1300 sur les 1600 et donc ça a pris 35 jours et il fallait une logistique extrêmement costaud pour pouvoir organiser tout ça parce que n'oublions pas que je partais quand même dans des pays où c'est des pays d'hommes, hein, c'est pas des pays de femmes, je pars toute seule, une femme, faire cette marche-là, il fallait une logistique costaud pour pouvoir assurer tout ça. Alhamdoulilah, vraiment, alhamdoulilah. Tu sais, quand tu... Allah subhanahu wa ta'ala te facilite quelque chose, ben il ne fait pas à moitié en fait. Alhamdulillah, c'est vraiment, je reviens mais avec une gratitude, alhamdulillah, parce que sur papier, il pouvait m'arriver tellement de péripéties, tellement de choses, tellement de mésaventures, mais alhamdulillah, tout s'est extrêmement bien déroulé, vraiment. Et ça, mais je dis alhamdulillah des milliards de fois parce que c'était un cadeau divin. Allah, c'est un cadeau divin. C'est comme ça qu'on peut l'appeler. En tout cas, c'est comme ça qu'il est vécu.
Emma Labar Alafi, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Merci. Super année 2026. Que tes projets prennent forme, Inch'Allah, qu'ils prennent le temps de mûrir. Je t'embrasse très fort. Prends soin de toi.
Avec grand plaisir.
Merci infiniment. Bonne journée à toi. Merci. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.